Je sais pas pour vous, mais il y a certainement des gens qui sont à l'écoute, qui, quand ils étaient plus jeunes, vous avez peut-être eu des difficultés à l'école. Puis pour beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas lâché. Vous avez bûché, puis vous avez réussi à vous en sortir. Puis des fois, quand on est jeune, puis l'histoire récente nous le démontre, puis qu'on a des difficultés à l'école, la clé, c'est de ne pas lâcher. C'est de les garder à l'école, de les garder intéressés. Quel impact pourrait avoir cette pandémie, cette pause-là, pour certains des enfants qui éprouvent des difficultés scolaires? À quel point c'est important de les ramener tout de suite dans le milieu scolaire? Mais comment faire? Avec nous, Égide Royer, psychologue, professeur associé à la Faculté des sciences de l'éducation au département d'études sur l'enseignement et l'apprentissage à l'Université Laval. Bonjour, M. Royer.
Bonjour, M. Langevin.
Honoré de recevoir une sommité comme vous aujourd'hui à l'émission.
C'est moi qui est honoré d'avoir l'occasion de vous jaser.
Franchement, là, honnêtement, dites-moi, vous voyez ça comment, cette pause-là? Il y avait eu vent qu'on revenait le 4 mai, qu'on voulait repartir les classes. J'imagine que vous étiez fébrile à ce moment-là. Qu'est-ce que vous pensez de la situation actuellement?
Oui, la situation du retour des classes, regardez, j'ai jeté un coup d'œil. J'ai suivi très attentivement ce qui se passait, entre autres en Europe. J'avais le cahier, entre autres, toutes les exigences pour rentrer au Danemark à l'école. Et ce qui s'annonce, c'est que, puis bah, ça va prendre une décision très claire là-dessus, on se retrouve dans la situation d'avoir environ, dans l'exemple du primaire, 10 élèves par classe, avec un respect de 6 pieds ou de 2 mètres entre chacun des élèves. Même chose au niveau du autobus scolaire. Désinfection des toilettes à chaque fois qu'un enfant est à la toilette, désinfection des jouets, en tout cas, ça s'additionne comme ça. Ce qui fait que ce qui semble prévisible, si jamais il y a une décision de rentrer au printemps, c'est qu'on rentrerait à demi-groupe dans bien des écoles. Et demi-groupe, ça signifie que vous allez à l'école une journée sur deux. Donc, une rentrée scolaire à la mi-mai, ça équivaudrait, compte tenu que les écoles vont fermer vers le 20 juin, à offrir 12 jours de classe par élève, là, si je prends ce scénario-là. Est-ce que ça va faire une différence là sur la réussite scolaire, compte tenu de l'implication? On peut se poser la question. L'autre élément, c'est qu'au Québec...
Je vous arrête avant d'aller trop loin, M. Royer. Je comprends votre point de vue, c'est sûr, mais en même temps, à 10 par classe, m'en vous dire, le professeur qui est là, il y a du temps consacré aux élèves, le suivi va être optimal, non?
Le suivi va être optimal dans la mesure où l'enseignant y est. Si vous avez des enseignants qui ont une condition de santé particulière, la simple prudence va être de ne pas y aller. Si vous avez des jeunes qui ont une situation de santé particulière, la simple prudence va être de ne pas y aller. Mmh. Et éventuellement, vous avez aussi des parents qui ont décidé de ne pas envoyer leurs enfants. Parce qu'il y a plusieurs choses à tenir compte. Mmh. Mais ce qui est le plus pertinent, c'est la question que vous avez soulignée au départ, c'est la question des élèves en difficulté. Je vais vous identifier deux groupes. Les jeunes qui ont un retard scolaire présentement, et ceux qui sont complètement oubliés présentement, c'est l'éducation des adultes. Au Québec, là, 70 à 80 % des adultes qui ont entre 16 et 19 ans. Donc, c'était déjà des jeunes fragiles au niveau de l'apprentissage et de la réussite scolaire. Et eux autres, il se passe pratiquement rien, là, au meilleur de ma connaissance, présentement. Là. Donc, vous avez le grand gars de 17 ans là, qui était retourné aux adultes, il est passé aux adultes parce qu'il était en difficulté scolaire, etc., mars, avril, mai, juin, juillet, août, et en septembre, on reprend. À votre question, on ne peut pas uniquement dire « je maintiens les apprentissages à distance au Québec ». Il faudrait y aller un peu sur ce que l'Ontario a fait. Je continue à enseigner à mes jeunes et au minimum, je garde un contact individualisé avec tous mes flots qui ont des difficultés d'apprentissage ou des problèmes d'adaptation à l'école. Sans ça, je vous dis tout de suite, on va avoir un pays qui risque d'avoir une pointe là. Ou d'avoir une différence au niveau des taux de décrochage dans les prochains mois lors de la rentrée scolaire de septembre.
Bien, je vous écoute depuis tantôt. C'est pratiquement impossible de rentrer dans ces conditions-là.
Ça va être... Moi, j'aimerais mieux... Ma recommandation, c'est ce que je pense à M. Arcan hier à Montréal. Ma recommandation, préparons-nous comme il faut pour une rentrée en septembre. Exigeons que tous les enseignants est le minimum de formation pour faire de l'enseignement à distance. Préparons-nous comme il faut, parce que même en septembre, là, on risque de fonctionner encore à demi-groupe ou d'avoir des élèves ou des enseignants qui, pour des raisons de santé, ne seront pas en mesure de fréquenter l'école. Donc, le plan A en septembre, c'est peut-être une entrée physique à l'école, je vais être là, mais ça prend absolument un plan B qui s'appelle enseignement à distance de qualité et avec la possibilité de même de fournir aux familles qui n'ont pas les ordinateurs ou qui n'ont pas l'infrastructure pour le faire. C'est le temps de sortir de l'argent en éducation pour assurer, entre autres, là, un contact et de l'enseignement de qualité, même à ceux qui n'ont pas les moyens technologiques de le faire.
Au début de l'entrevue, vous m'avez parlé du Danemark. Je sais que le Danemark rouvrait les écoles d'une certaine façon mm-hmm. et les garderies mercredi de cette semaine. Mm-hmm. Comment ça se passe?
Bon, j'ai ça devant moi. J'ai revérifié ce matin. Il y a un certain nombre. Il semblerait que ça ressemble à peu près à 10 à 15 des parents qui ont décidé de garder quand même les enfants chez eux. L'autre élément, c'est qu'ils fonctionnent à demi-temps. J'ai tout juste de vérifier. C'est le scénario. Écoutez, prenez une classe de 20, prenez une classe de 20 en première année, vous la divisez en deux. Donc, ça signifie que vous avez à utiliser tous les espaces de l'école et même là, vous allez en manquer. Donc, c'est de l'enseignement à temps partiel une journée sur deux. On revient avec mon calcul de tout à l'heure. Si on rentre au Québec à la mi-mai, une journée sur deux, c'est qu'on va donner à peu près une douzaine de jours de classe là, à chacun des élèves. C'est à nous autres d'évaluer. C'est au ministère, puis c'est aux parents aussi d'évaluer s'il y a une plus-value réelle de faire ça. Mais présentement, c'est ce qui se passe au Danemark, là, aux dernières nouvelles. J'ai vérifié ce matin, là, directement en fonction des médias là, danois.
Et en même temps, il faut trouver une solution parce qu'on peut pas. C'est mondial, c'est partout. Là. Il faut qu'on arrive avec une solution puis qu'on trouve. Et les gens disent il faut qu'on le prenne, le virus, dans le fond. Il faut qu'on l'attrape comme société. J'ai envie de dire, c'est comme si on disait, on retourne les enfants à l'école parce que c'est correct qu'ils se contaminent entre eux autres. Ça va ramener ça dans les familles. Ils vont pas être en contact avec les personnes âgées, puis on va le pogner, puis on va s'immuniser par la suite comme société.
Le but d'un retour en classe, ce n'est pas de développer une résistance à un virus. Le but du retour en classe, c'est qu'on juge qu'il y a une plus-value réelle au niveau de l'apprentissage et du bien-être des enfants que de retourner à l'école. C'est la même chose. Écoutez, on ouvre les ateliers mécaniques mais présentement, puis on ouvre d'autres types de services. On les ouvre pas pour développer une résistance au virus. On les ouvre parce qu'il y a des besoins réels là, en termes de services mécaniques puis en termes de d'autres types de services qu'on offre à la société. Donc, selon moi, au meilleur de mon expertise là-dedans, organisons-nous pour faire une entrée scolaire bien préparée, avec le transport scolaire. N'oubliez pas que ça me prend 6 pieds de distance dans les bus scolaires aussi. Là.
Mais comment on peut passer à 6 pieds? Parce que, moi, vous dire, la manière qu'un autobus scolaire est fait, là, s'il y a quelqu'un d'assis dans une banquette puis que je passe dans l'allée, je suis pas à 6 pieds.
Oui. Regardez, moi, j'ai les diagrammes, de toute manière, de ce qui se passe. Là, tout ce qui est envoyé aux écoles danoises, j'ai les diagrammes devant moi. Ça ressemble à un jeune assis par banquette. Et des fois, c'est un jeune assis par deux banquettes. Donc, imaginez attacher toutes les cordes de ça. Un, moi, je l'ai dit publiquement hier, j'exigerais que tous mes enseignants au Québec soient capables de faire de l'enseignement à distance et possèdent bien. Mm-hmm. Parce que j'ai encore un pourcentage d'enseignants qui ne sont pas très habiles là-dedans. Ça, c'est une obligation de formation continue. Je me prépare comme il faut pour une rentrée en septembre. Je fais rentrer mes enseignants, non pas le 23 août, là, mais je m'organise pour que tout le monde soit à l'école vers la mi-août pour être capable de bien préparer tout ça. Et ça va être un modèle mixte. Là. Il va y avoir de l'enseignement physiquement, les élèves vont être là, puis il va y avoir de l'enseignement à distance qui va se faire une journée sur deux, ou tout au moins avec des jeunes qui ne sont pas en mesure de participer. Mais ça prend les deux services en même temps, et là, on va être capable de repartir les écoles. Mais de dire « je fais une rentrée précipitée le 15 mai, sachant que les vacances arrivent le 20 juin avec des jeunes qui sont là à demi-temps », et des parents qui vont peut-être dire, écoutez, ça fait des semaines que vous nous dites que c'est dangereux, puis les enfants peuvent pas aller jouer avec les autres amis, puis ils peuvent même pas aller jouer dans la rue, puis là, vous les rentrez à l'école. J'ai des parents qui vont réagir à ça et qui vont dire, écoutez, moi, je les garde. Là. Ou est-ce que c'est vraiment devenu beaucoup moins dangereux que ça l'était?
Je vous pose la question en terminant. Pour les élèves, moi, ça me préoccupe beaucoup, les élèves en difficulté, parce que ceux qui sont bons, là, ceux qui sont bons, ils vont passer à travers, ils vont continuer leur apprentissage. On s'entend là-dessus. Mais ceux qui sont en difficulté, là, qui étaient sur le bord, tu sais, qui avaient de la misère déjà, qui bûchaient déjà pour venir à bout de réussir, puis qui on essayait tout pour les garder motivés, il n'y aurait pas une façon, tu sais, de faire des classes que pour eux, physiquement, avec un prof qui je ne sais pas, moi, qui vient à bout de travailler étroitement avec ces étudiants-là. C'est eux autres qu'il ne faut pas perdre dans le système scolaire.
Il y a plusieurs possibilités. On va prendre un exemple du début du primaire, première année. Là, moi, enseignant de première année, je sais que Steve, Marie et Julie m'inquiètent. On ne prendra même pas le mot diagnostic, là. Ils m'inquiètent. Quand on a arrêté l'école au mois de mars, ces jeunes-là avaient au moins 2 ou 3 ans de retard en lecture. Si on est un système véritablement proactif, il y a déjà tout de suite une attention particulière puis un contact privilégié puis personnalisé que j'ai avec ces trois élèves-là, de manière à c'est quoi les choses essentielles qu'on peut continuer à faire en lecture, et j'irais même jusqu'à organiser durant l'été un genre de mini-camp de lecture ou tout au moins une forme de suivi à distance en lecture, de manière à ce que l'écart en ce qui concerne l'apprentissage de la lecture, ne sera pas trop grand. Parce qu'en deuxième année, l'an prochain, quand ça va se mettre à récupérer, ou si vous aimez mieux, à avoir ou à aller chercher les contenus, les apprentissages qu'on n'a pas fait pendant 3 mois parce qu'on les a manqués, les jeunes qui sont en difficulté, là, ça va vraiment être serré. J'irais jusqu'à une intervention vraiment. On ne peut pas uniquement maintenir les apprentissages d'un jeune qui a trois mois de retard. Ça ne fonctionne pas, là. Il faut que je fasse beaucoup plus. Il faut que je fasse carrément de l'enseignement pour éviter qu'il y ait trop de retard quand on va rentrer en septembre.
Merci beaucoup d'avoir pris le temps, M. Royer. Évidemment, c'est un dossier qu'on va surveiller. Merci de nous avoir fait part de ce qui se faisait du côté du Danemark, puis de nous avoir, je pense, permis d'imaginer, de visualiser un scénario de retour scolaire. Puis ce que j'ai imaginé, puis ce que j'ai visualisé ce matin, là, c'est pas tellement emballant.
C'est pas simple, c'est faisable, mais pas simple, et ça va prendre beaucoup de problèmes. Il faut pas y aller d'une manière vraiment empressée, là, puis improvisée. Il faut vraiment planifier ça très comme il faut. Et l'éducation est aussi importante que l'économie puis la santé, là. Même si la santé domine, on met beaucoup d'argent au niveau économique pour sauver les emplois, des choses comme ça, mais il va falloir qu'on fasse sensiblement le même type d'énergie au niveau de l'éducation, parce qu'on va s'en sentir. C'est toute l'année scolaire 2020-2021, là, qui va être assez étrange comparativement aux précédentes.
Passez une bonne journée. Merci beaucoup.
Portez-vous bien. Bye.
Merci beaucoup. Égide Royer, psychologue, professeur associé à la Faculté des sciences de l'éducation et au département d'études sur l'enseignement et l'apprentissage à l'Université Laval. Lui nous a dressé un portrait de ce que ça pouvait représenter comme défi de ramener les jeunes à l'école là. Et ce qu'il dit, c'est que on est aussi bien de prendre notre temps, de prendre un certain recul, parce que c'est pas si simple que ça. Des demi-classes, puis des 6 pieds de distance, des autobus, puis dans les écoles, avec des profs, ça ne sera plus jamais pareil. Ce qui est dit, entre autres, c'est que là, il faut faire de l'école à distance. Les jeunes ne sont pas prêts, le Québec n'est pas prêt, les profs ne sont pas prêts non plus. Donc, on a beaucoup de travail de ce côté-là.